Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pageau, Jean-Philippe Marceau et aujourd'hui aussi Georges Elias, que vous reconnaîtrez sans doute parce qu'il a déjà participé au podcast, puis aussi c'est un contributeur régulier au blog qu'on a en français. Puis j'ai justement invité Georges aujourd'hui pour nous parler de deux articles qu'il a publiés cette année sur l'espace et le temps, où il utilise les travaux de Jordan Peterson et aussi Mathieu Pageau. Donc, sans plus attendre, Georges, peut-être qu'on peut commencer avec un résumé du premier article, puis on va naturellement avoir une discussion autour de ça, puis ensuite on passera au deuxième.
Ouais, en fait, le premier article, c'est au sujet de l'espace, en fait. Et moi, je me souviens, personnellement, quand j'ai commencé à penser d'une manière symbolique, ça avait vraiment commencé avec Jordan. C'était vraiment la première fois où peut-être je voyais l'élégance de pouvoir penser à travers des catégories masculin, féminin. Dans son livre, il insiste plus vraiment, la dichotomie qu'il a, c'est vraiment sur l'ordre et le chaos. Et il arrivait vraiment à faire comprendre comment un excès d'ordre et de fermeté, ça pouvait causer une certaine tyrannie, alors que l'excès de chaos, ça dissipait tout et ça ouvrait tout et on pouvait s'y perdre. Et puis alors, quand j'ai lu le livre de Mathieu Pageau, j'ai remarqué que lui, il travaillait pas uniquement avec une dichotomie, mais il avait plutôt une cosmologie avec quatre. Genre, c'était le ciel, la terre, l'espace et le temps. Et donc, naturellement, quand j'essayais de penser à voir, OK, quand on parle d'ordre et de chaos, est-ce que c'est plutôt l'espace et le temps? Est-ce que c'est plutôt le ciel et la terre? Ça serait quoi la relation entre tous ces principes? Je pense que tout ça, ça marchait vraiment inconsciemment. J'essayais vraiment de réconcilier ça inconsciemment. Et je pense, et quand j'écrivais ces articles, je pense vraiment que je suis venu à la conclusion que donc, pour parler peut-être du premier article, que lorsque Jordan Peterson parle de l'ordre et du territoire connu, lui, ce qu'il veut dire, parce qu'il étudie ça d'un point de vue psychologique et phénoménologique. Donc, il commence tout le temps du champ de l'expérience et des études en neuropsychologie qui nous font savoir que on a toujours une sorte de théorie qu'on impose au monde. Ça, c'est une façon un peu informatique de la mettre. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais on imagine comment le monde veut. On désire que le monde soit d'une certaine manière. Et lorsque nos prédictions, lorsque nos désirs que le monde se manifeste d'une certaine manière sont en accord avec les faits du monde et que le monde montre qu'on a raison de penser ça, toutes nos émotions sont régulées et on continue de manière stable en ignorant tout le reste. Non, on a tendance à penser peut-être que ça, c'est la situation normale d'être calme et stable et qu'on n'est pas peut-être une multiplicité d'émotions en conflit et en compétition. Mais en fait, ça, c'est uniquement le cas lorsque nos prédictions, et même inconscients, genre nos plans qui seront long terme. Donc, si on a une mauvaise note, par exemple, c'est peut-être un plan long terme qui est inconsciemment le fait que toute mon émotion est régulée parce que d'un point de vue long terme, je pense que je vais réussir à l'université pour avoir un job éventuellement. Donc, tout ça, à chaque fois que le monde juste s'accorde avec nos prédictions, on pourrait dire que c'est une manifestation de l'espace ordonné dans la psychologie de Jordan. Ça, c'était un peu long. Et donc, j'ai remarqué que lorsque Mathieu Pageau nous parle de l'espace, c'est vraiment ça, mais d'un point de vue métaphysique. Donc oui, ça peut se manifester à l'échelle individuelle lorsque nos plans s'accordent avec les faits du monde, mais d'un point de vue métaphysique, lorsque le ciel et la terre s'unifient, c'est la manifestation de l'espace. Et je pense qu'il y a plein de ramifications à ça, mais donc ça serait peut-être un peu la genèse de cet article et qu'est-ce qui m'a fait penser à le faire.
Ouais, peut-être une question que j'aurais pour faire suite à ça, c'est que bah, peut-être une question pour Jonathan, en fait, là, parce que je me demande à quel point c'était explicite pour, disons, toi et Mathieu depuis longtemps, cette idée-là que l'espace, c'est le territoire connu où nos théories s'accordent avec les faits. Parce que de ce que je comprends en psychologie, ça fait pas si longtemps que les gens ont commencé à concevoir les choses comme ça. Puis j'ai pas vraiment vu ça, ce genre d'idée-là non plus, tu sais, dans la philosophie plus classique. Fait que, tu sais, je suis curieux de voir, disons, d'où est venue cette idée-là pour toi et Mathieu. Puis si c'est quelque chose d'un peu nouveau que vous avez redécouvert, ben, tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas pendant longtemps?
Ben, honnêtement, c'est vraiment une idée de Mathieu. Moi, je pense pas exactement de la même façon. Je trouve que c'est vraiment utile, tu sais, la structure est très utile, Mais il faut toujours faire un peu attention parce que tu sais ça faut prendre tu sais la façon dont il décrit les catégories qu'il décrit au sérieux là. Parce que tu sais des fois c'est pas aussi simple que juste l'espace et temps parce que tu dis bon le temps tu sais il y a une façon dont le temps il ressemble à l'espace là tu sais quand le temps est ordonné puis quand le temps est qualifié on pourrait dire fait que tu sais moi c'est comme ça que je le prends. T'sais, j'ai l'impression que c'est certain que Mathieu, il offre des catégories qui sont importantes et nécessaires par rapport à Jordan. Je trouve que Jordan, lui, ce qu'il offre, c'est trop simplifié, là. Parce que lui, il a l'ordre et le chaos. Puis là, il ne distingue pas l'ordre de l'espace habitable, on pourrait dire. Pour lui, ça, c'est l'ordre. Puis après ça, il y a le chaos. Mais Mathieu, c'est bien ce qui est différencié parce que c'est comme si tu as le ciel. Tu sais, t'as les principes, puis là, t'as le chaos, qui est comme disons, la variabilité ou quoi que ce soit. Puis la Terre, c'est quand le ciel et la Terre, excuse-moi, l'espace, c'est quand le ciel et la Terre sont connectés, puis le temps, c'est quand le ciel et la Terre sont déconnectés. Puis ça fait que, puis tu sais, ce qui est important, qui fait que des fois, c'est un peu mélangeant, c'est que quand le ciel et la Terre est connectée, l'espace ressemble au ciel. T'sais, c'est-à-dire qu'il y a une connexion entre l'espace et le ciel. Puis quand le ciel et la Terre sont déconnectés, ben là, le temps ressemble au chaos. T'sais, ça a rapport avec la droite et la gauche un peu, t'sais, parce que la droite, c'est comme c'est un représentant du centre, puis la gauche, c'est un représentant de la périphérie. Fait que, t'sais, j'ai l'impression que c'est les catégories que Mathieu off sont très utiles parce que souvent Jordan parle, puis là tu vois que quand il parle, il slip entre les deux, il glisse entre la notion du ciel puis la notion d'ordre. Parce que l'ordre dans le monde, c'est pas le ciel, c'est la hiérarchie, c'est la montagne, c'est la façon dont le ciel et la terre sont unis. Puis c'est ça, puis le désordre, ou le changement, t'sais, c'est pas nécessairement tout simplement le chaos, c'est comme d'autres choses, c'est une transition entre deux identités. Tandis que, fait que ça, ce que j'ai l'impression, c'est que Mathieu a vraiment les bonnes catégories pour donner un équilibre au processus de transformation. Mais c'est juste que c'est difficile si on le prend de façon trop, les catégories de façon trop stricte, parce que on pourrait dire que la périphérie est l'équivalent du temps. Puis le cycle ou le, t'sais, le temps qualifié ou la fête, toutes ces choses-là, c'est l'équivalent de la Terre, de l'espace excuse, je mélange les termes, un cycle qualifié, t'sais, c'est l'équivalent de l'espace parce que c'est comme un cycle qui est contrôlé puis qui est qualifié par des identités. Je sais pas ce que lui dirait, mais moi j'ai l'impression que c'est ça qui est important de faire comme distinction, parce que si on prend ces catégories de façon trop littérale, ça crée des. Ça, selon moi, ça crée des problèmes. Là, mais si on comprend ce qu'il veut dire, ce que moi j'ai l'impression qu'il veut dire, ben c'est vraiment parfait parce que ça l'aide à rendre beaucoup plus subtil puis à mieux comprendre la façon dont les identités puis la transformation se passent.
Je sais pas, Georges, si tu as déjà une suite à ça, mais tu sais, j'aurais des idées peut-être de comment Mathieu essaierait de répondre, là. Mais si c'est toi qui écris l'article, fait que si tu as déjà une idée, je vais te laisser y aller.
Non, moi juste, je trouve que c'est un très bon point ce que tu as fait en disant que Mathieu, il clarifie vraiment, il met vraiment de l'ordre dans les catégories que Jordan mettait parce que, comme tu dis, il confond parfois le langage, comme quoi, quand on parle par exemple de Dieu qui utilise le mot ou la lumière dans le chaos du début, il dit he imposed order on chaos, mais parfois il parle de l'ordre et du chaos comme étant l'espace et le temps. Donc, comme tu dis, moi j'ai trouvé que c'était très utile d'avoir cette séparation. Et oui, et je pense aussi que c'est très important de faire la distinction entre le fait que l'espace, ça serait le représentant du ciel dans la manifestation et non pas le ciel lui-même. Et je pense, quand on entend Jordan par exemple parler du Père en tant que manifestant de l'espace et parfois le confondre avec le Père de la Trinité, je pense que c'est exactement
Ouais.
l'erreur que tu pointes, non? Ouais.
C'est sûr que ça, c'est une erreur qu'il fait constamment. Il mélange l'idée du passé, t'sais, ou de l'ordre qui est dans le passé, avec le Père de la Trinité. Mais t'sais, c'est pas. Il n'y a aucune. T'sais, le Père que les gens vont chercher dans la mort, là, t'sais, c'est juste pas le Père de la Trinité, là. C'est Adam, t'sais. Ça a du sens, mais c'est pas la Trinité. Fait que c'est sûr que selon moi, il y a des confusions, t'sais, dans sa pensée à ce niveau-là. Puis c'est ça, mais t'sais, on peut quand même comprendre ce qu'il dit. Puis c'est ça aussi, là, t'sais, parce que disons, tu peux dire, tu as besoin d'une distinction pour bien comprendre. Puis après ça, je lui dis, ben, Mathieu, j'ai l'impression que tu as besoin aussi d'une autre distinction. C'est parce que c'est fractal, hein, c'est ça aussi le problème. C'est qu'à un moment donné, à cause que c'est fractal, ben là, tu vois, tu dis, ben l'ordre, disons le ciel, ben c'est l'équivalent de l'ordre dans le monde. Mais oui et non, c'est ça le problème. C'est que oui, d'une certaine façon, mais non si tu les confonds tout simplement, là. Mais tu sais, ça serait pas si difficile pour Jordan de juste dire, disons la différence entre une différence entre le règne puis le royaume, là, tu sais, c'est pas la même chose. Le règne et le royaume, c'est pas la même chose. Ou tu sais, dans la Bible, c'est vraiment décrit comme l'idée du royaume est décrit comme tu sais, ou genre la différence entre le grain et les fruits, tu sais, le grain, c'est vraiment le ciel qui descend, puis après ça, le fruit ou l'arbre que Jésus décrit, ben là, c'est le royaume, tu sais, c'est la façon dont la structure se manifeste dans un particulier. Puis ça, c'est là, tu sais, ça, c'est. Puis c'est ça, puis c'est à cause que c'est fractal, c'est compliqué, parce que dans le fond, là, après ça, l'ordre lui-même, tu sais, disons, le royaume, il est fractal, puis dans le royaume, il y a aussi un équivalent de l'aspect qui va vers l'ordre, puis dans le royaume, un équivalent de l'aspect qui bouge vers le chaos. Ou la variabilité, on peut le dire d'une façon positive aussi, là. Puis ça se passe toujours à tous les niveaux, tout le temps. Fait que c'est pour ça aussi que c'est difficile pour les gens de voir parce que c'est fractal, dans chaque identité.
Ouais, j'avais l'impression que c'est ça qui se passait avec l'exemple que tu avais mentionné plus tôt, par exemple, du festival, d'avoir un cycle qualifié qu'on a à l'année, par exemple, là, parce que disons, les moments de festival, si tu les regardes comme comparativement à une journée normale, c'est un moment de temps. Mais si tu les regardes comme compris dans une année au complet, là, ça devient ce que Mathieu appelle le méta-espace, là. Fait que je pense que c'est exactement la fractalité qui fait que les catégories fonctionnent quand même, là. Mais ça peut être justement difficile pour des gens de comprendre initialement comment est-ce que tu l'appliques parce que ce que tu dis qui est le temps à un niveau, c'est pas nécessairement le temps à tous les niveaux. Ça se peut que ce soit de l'espace vu à un autre niveau. Puis c'est le même genre de principe que quand on parle de qu'est-ce qui est masculin et féminin, par exemple. Ce qui est masculin à un niveau peut être aussi féminin à un autre niveau. Donc, tu vois, le père de famille qui est masculin pour sa famille, mais qui est féminin par rapport à son prêtre, par exemple. Fait que ce genre de relation-là, comme ciel-terre qu'on est habitué qu'il soit fractal, on va aussi les voir dans l'espace et le temps, selon Mathieu, qui vont aussi être fractales, à mon avis.
Oui, je pense que c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est la partie de son livre que Mathieu, il savait qu'il avait été intuitivement, tu sais, qu'il était intuitivement fort, mais que je pense qu'il doit encore développer jusqu'à un certain point, sa pensée, là, tu sais, parce que tu sais, c'est immédiatement la chose. Les gens qui lisaient le livre, c'est l'endroit où il y avait plus d'objections. Pas des objections nécessairement pour dire que c'est pas bon, mais des objections ou des questionnements, tu sais, de dire, ben là, comment ça marche? C'est pas totalement clair pour moi. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, peut-être dans son prochain livre aussi, il va nous donner des pistes, là. Il va avoir réussi à trouver une façon de l'expliquer qui va répondre aux questions.
Bon, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est là où j'ai le plus de commentaires aussi des gens d'habitude. J'ai commencé un cercle de lecture là, sur le livre de Mathieu dans des cercles catholiques autour de moi. Là. Puis souvent, c'est ça que les gens trouvent le plus flyé. C'est les associations, comment ça se fait que l'homme, c'est plus le temps, la femme, c'est plus. Excuse, l'homme, c'est plus l'espace, puis la femme, c'est plus le temps. Ce genre de choses-là, les gens trouvent ça flyé.
Oui,
Comme tu dis, c'est pas nécessairement faux, mais il va y avoir moyen de. disons, raffiné ou mieux expliqué pour que les gens butent pas autant sur la notion.
Oui, ça, il faut toujours prendre, dans une intuition globale aussi, là, c'est tous des outils là, pour nous aider à comprendre le monde. Fait que, des fois, les outils, il ne faut pas non plus trop les idolâtrer, là, parce que c'est dangereux. Mais c'est sûr que moi, j'ai en tout cas, moi, ces quatre catégories m'ont donné beaucoup de clarification parce que moi aussi, je faisais l'erreur de identifier tout simplement l'ordre. C'est l'idée du ciel avec l'ordre, là, disons, on pourrait dire comme ça. Ou t'sais, l'idée du ciel avec le royaume. Puis des fois, ça fait des problèmes.
Toi, d'habitude, tu utilises plus gauche puis droite. Est-ce que dans ta tête, c'est la même chose? Mettons l'espace, la droite, puis le temps, la gauche, ou il y a une distinction de plus que tu veux faire?
Ben ça, moi, j'utilise juste pas les mêmes catégories. T'sais. Fait que moi, j'ai tendance à penser plus avec gauche et droite. Puis, tu sais, il y a comme une interpénétration des deux catégories, selon moi, l'espace et le temps. Parce que, tu sais, disons, imagine un espace, puis là, tu sais, tu as un centre, tu as une périphérie. Disons que tu as quelque chose qui se pousse de plus en plus vers la périphérie. Ben, tu sais, à mesure qu'il se pousse vers la périphérie, ben, il perd son identité. Il est moins connecté à l'identité, puis à un moment donné, il tombe dans un espace disons, de manque d'identité ou de quelque chose qui n'est pas défini, d'indéfini. Puis là, dans ce moment-là, ben, cette chose-là, elle est en processus de devenir le corps pour quelque chose d'autre, t'sais, ou de participer à une autre identité, ou d'être la genèse d'une autre identité. Fait que, t'sais, on pourrait dire, ben, à ce moment-là, est dans le temps, t'sais. Mais tu peux faire tout le système sans parler de temps ou d'espace, tu peux juste utiliser l'espace. Puis selon moi, tu peux faire la même chose aussi avec le temps. C'est-à-dire, tu as une version du temps qui est qualifiée, on pourrait dire le présent ou la concentration, l'attention. Puis les pères d'Église, ils parlent de ça, l'idée de Dieu qui est présent dans le présent, là, t'sais. Puis, tu sais, c'est comme une image de l'éternité, on pourrait dire. Puis, tu sais, cet aspect-là du temps qui est comme l'idée de l'éternité ou du kairos et tout, ben c'est pas le temps comme ça, tu sais, c'est un autre aspect. Fait que c'est ça, selon moi, j'ai plus tendance à utiliser ces catégories-là.
C'est bon.
Ouais, c'est très intéressant comme distinction. Une autre chose que toi, tu avais pointé aussi de comment peut-être la droite et la gauche sont en train de s'interpénétrer, c'est par exemple, si on lit le livre de Matthieu, on verra que il parlera de la droite comme étant le jugement, de l'espace comme étant le jugement, parce que c'est carré et il faut enlever tous les résidus et tout ce qui est dans la périphérie pour essayer de faire un espace stable. Et du temps comme étant plutôt ce qui permet non pas la perfection, mais plutôt la complétion, et laisser tout rentrer pour permettre une certaine complétion. Donc, il aurait parfois dans le livre, il parle de justice et de. J'oublie maintenant comment mercy, ça serait en
Compassion,
français.
merci. Oui, compassion.
C'est ça, alors que par exemple, parfois, je me rappelle que tu avais écrit un article sur le fait que la main droite et la main gauche, de la perspective du logos, ça serait peut-être l'inverse. Où la main droite, ça serait la compassion, et la main gauche, ça serait cette rigueur et cette justice-là. Donc, je pense que ça parle aussi de cette interpénétration du temps et de l'espace, beaucoup plus nuancée que juste simplistique, les séparer.
Oui, ben c'est sûr que tu es. Moi, ma compréhension de la droite et de la gauche, ben, même en partie avec Jean-Philippe, là, tu sais, à des discussions qu'on a eues et tout, puis ça fait des années que je réfléchis au problème de comment elles s'inversent. Tu sais. Puis j'ai l'impression que là, que j'ai saisi là, tu sais, que ça a le rapport avec la différence entre ce qui est appliqué à soi et ce qui est appliqué à l'extérieur. Tu sais. Puis en fait, il y a comme vraiment une inversion, c'est-à-dire la droite appliquée à soi, c'est quelque chose comme la discipline, c'est une sorte de rigueur envers moi. C'est-à-dire, c'est concentrique, t'sais. C'est ça que j'essaie d'expliquer. La droite, elle est concentrique. Fait que si la droite, elle est concentrique, quand je l'applique à moi, pour maintenir mon centre, je dois être discipliné, rigoureux et tout ça. Mais appliquer aux autres, c'est la compassion parce que c'est pour les laisser venir vers moi. Et, tandis que la gauche qui est appliquée à moi, elle est dispersante. C'est-à-dire, c'est moi qui tombe dans la distraction, dans les choses qui me fragmentent. Mais quand que je l'applique à l'extérieur, si je veux éloigner les choses de moi, là, la gauche devient jugement, puis exclusion, puis toutes ces choses-là, puis rigueur dans ce sens-là. Fait que c'est moi, c'est comme ça maintenant que je comprends la gauche puis la droite. Là, y a pas, y a, pour moi, ça a réglé mon problème de voir. Tu sais, d'ailleurs, je lisais dans Jung, je lisais Aeon, puis dans Aeon, il parle de la gauche puis la droite. Puis tu vois qu'il glisse d'un côté puis de l'autre sans s'en rendre compte. Il va parler autant de la gauche comme étant ce qui est croche puis qui est. Puis après ça, il parle de Dieu qui envoie les gens en enfer ou je sais pas quoi. Là, puis là, tu dis, ouais, mais là, c'est deux opposés. Là, anyway, fait que c'est ça que je vois comme la gauche et la droite. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, pour moi, penser comme ça, c'est très, très utile pour comprendre beaucoup de choses.
Ouais, moi aussi, j'avais trouvé que c'était très élégant cette façon d'avoir par rapport à soi ou par rapport à l'autre. Et j'ai pas fini d'explorer cette lentille de réflexion. Et donc, une autre chose, peut-être dans le livre de Matthieu, qui était peut-être difficile à accepter au début, mais avec le temps, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une façon très importante de voir les choses. Ça a l'air simple de base, mais c'est le fait que le bien et le mal, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, c'est que le bien et le mal, du fruit du bien et du mal, c'est l'espace et le temps. Lui, il est très clair à propos de ça. Et moi, je me rappelle au début, j'avais un peu de difficulté à accepter ça facilement, parce que surtout quand on pense en anglais, evil, on n'a pas vraiment envie d'accepter que. Parce que lui, au final, lorsqu'il nous parle des branches du bien et du mal, c'est pour qu'à la fin. À la fin, la branche du mal, si elle n'est pas corrompue d'une certaine manière, elle va permettre le renouveau. Donc, de base, quand on pense à la catégorie de evil en anglais, j'avais du mal à accepter facilement que evil, c'était simplement le temps et qu'il y avait une certaine nuance. Mais vraiment, quand j'ai écrit ces deux articles au sujet de l'espace et du temps, et quand je les ai compris d'un point de vue, quand j'ai compris l'échelle psychologique, que quand on expérience l'ordre ou l'espace connu ou la stabilité, l'expérience de cela, c'est le bien. Il n'y a pas vraiment de. Notre corps n'est pas en train de sentir de l'anxiété, nos plans sont stables. Donc, c'est vraiment une bonne expérience. Alors que le temps, même si on n'arrive pas à voir exactement quelle prédiction c'est en train de nous déranger, même si dans le futur où c'est inconscient, on va vraiment le sentir comme quelque chose de mauvais ou quelque chose de mal. Donc, tout ça, je voulais juste appuyer sur le fait que oui, le fait que droite, gauche, espace-temps, bien, mal, c'est aussi une autre facette de cette dualité, je pense, que Mathieu a apporté et que j'ai essayé de montrer un peu dans cet article pourquoi ça fait du sens de penser comme ça.
Oui, ben c'est bon. C'est sûr que ce qui est génial de la façon dont Mathieu l'apporte, c'est qu'il essaie vraiment d'éviter le côté a priori moral de la question de bon et mauvais. Il dit good and bad, c'est-à-dire tu peux avoir une bonne pomme et une mauvaise pomme, c'est pas une question morale. Tu peux avoir une bonne voiture et une mauvaise voiture, c'est pas une question morale. C'est plus la façon dont la bonne chose, elle est en accord avec son identité, puis la mauvaise chose, elle n'est pas en accord avec son identité, donc elle a besoin du temps, t'sais, ou du travail pour revenir, t'sais, elle nécessite la transformation, une sorte de elle nécessite quelque chose pour la ramener à son identité, là. Puis c'est ça la différence. Puis c'est une bonne façon de le comprendre.
Peut-être un follow-up que j'ai par rapport à ça pour des gens qui se posent la question, c'est de prime abord, ça peut sembler comme presque un biais conservateur de dire les choses comme ça, là. Ou si automatiquement l'espace, la structure, c'est ce qui est bien, puis le temps, c'est ce qui est mal, comme ça, il semble manquer quelque chose, là. Mais j'imagine que c'est la façon dont c'est réglé ce problème-là, c'est en parlant encore de fractalité, là, où c'est des fois Comme si tu regardes les choses ben, si on reprend l'exemple du cycle d'un temps qualifié, par exemple, où tu as un cycle liturgique à travers l'année où il y a des moments de carnaval, ben là, tu peux voir que quelque chose qui est du temps qui peut sembler mal à un niveau bas, va en fait être bon parce que ça fait partie d'un espace plus haut à un autre niveau.
Ouais,
Mais
mais
ça.
tu sais, c'est ça qui est difficile, c'est que c'est pas une question de. Tu sais, c'est pas tant que ça une question morale. C'est ça qui fait que c'est difficile. C'est pour ça que les mots, ils fait que c'est différent. C'est difficile. Tu sais, fait que tu pourrais dire disons, le bien, c'est le vecteur d'identité, puis le mal, c'est le vecteur de variabilité. Tu sais, c'est. Mais la variabilité est nécessaire aussi, tu sais. C'est la façon dont la chose, elle n'est pas totalement identique à son identité. C'est nécessaire pour que les choses existent. C'est pas. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on est tellement habitué de penser de façon morale que quand Mathieu, il présente des catégories, des fois, ça peut nous choquer parce que, en fait, j'ai l'impression que lui, c'est pas la question morale qui l'affecte tant que ça. C'est plus cette question-là de la façon dont l'existence existe. Mais tu sais, c'est pas, tu sais, je pense que c'est même lui qui utilise l'exemple pour dire, je sais pas si c'est dans son livre ou si c'est dans un autre endroit, où tu sais, il parle, tu sais, de la femme qui vient de l'autre tribu, tu sais, t'as des hommes, t'as une tribu, puis là, à un moment donné, ben, les hommes, ils ont besoin des femmes, fait que là, tu vas chercher une femme d'une autre tribu, puis là, tu l'amènes chez toi, puis là, tout d'un coup, tu sais, elle devient carrément un vecteur de l'étrange. Elle devient un vecteur de variabilité dans ta maison. T'sais. Puis là, après ça, ben, t'sais, ton enfant, il a besoin de ce vecteur de variabilité-là, parce que sinon, ce serait juste toi. Sinon, ce serait juste toi. Pour te multiplier, tu as besoin de ce qui est mal dans le sens de ce qui n'est pas toi. T'sais. Pour que tu puisses, ton identité puisse prendre plus de corps, c'est absolument nécessaire. C'est pour ça que c'est. En tout cas, moi, je trouve que ce qu'il offre, c'est vraiment puissant parce que aussi, tu sais, moi aussi, j'ai tendance à dire, à sortir du côté strictement moral pour essayer de voir que c'est des structures ontologiques, là, des structures métaphysiques. Sauf que ça ne veut pas dire que downstream, il n'y a pas aussi le côté vraiment bon, mauvais dans le sens moral aussi. Tu sais, il ne faut pas juste dire c'est tout amoral puis c'est pas grave, là. Mais tu sais, il y a quand même un T'sais, y a, mais t'sais, c'est ça. Il y a quand même un côté comme ça.
Ouais, je pense que c'est comme en métaphysique classique, là, où t'sais, une chose est bonne si la forme est bien atterrie dans la matière, puis quelque chose est mauvais quand la forme n'est pas bien atterrie dans cette matière-là. C'est bon, je pense, Georges, je t'allais dire quelque chose.
Oui, parce que ce problème, c'était vraiment un truc auquel j'ai pensé souvent, parce que on peut clairement penser à Nietzsche directement. Alors, Beyond Good and Evil, le fait que quand on va comprendre que le bien et le mal, c'est juste l'espace et le temps, il y a vraiment. Et je peux le voir, genre vraiment, on peut le voir maintenant sur Twitter, par exemple, les gens actifs, je peux voir comment les gens vont mal comprendre ça et finir par dire que le péché, c'est pas si mauvais et tomber dans des simplicités qui sont pour eux-mêmes. On va ignorer ça, on va ignorer ça.
Non, mais je veux
Mais.
dire, regarde, c'est important, honnêtement, de voir comment la moralité, elle est un peu plus bas dans la structure que la métaphysique et l'ontologie. Parce que, t'sais, regarde, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ça, c'est juste vrai. C'est-à-dire que le salaire de quelque chose qui transgresse son identité, c'est la décomposition. C'est le fait qu'elle cesse d'être. Puis ça, c'est la souffrance. C'est-à-dire que ça veut dire de devenir l'esclave de ce qui est étrange. T'sais. D'être soumis à des facteurs extérieurs, c'est le salaire du péché. Parce que là, il y a des choses externes qui dominent sur toi, puis qui te font souffrir. Mais ça, c'est juste une description de la réalité. Mais est-ce que c'est vrai moralement aussi? Ben oui, c'est vrai, parce que si tu pèches, tu vas mourir, puis tu vas souffrir, puis tu vas faire souffrir les autres, puis tu vas devenir un esclave de ton péché. Puis ça va te, ça va te, ça va te, 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 te fragmenter puis te, t'sais. Fait que c'est quand même une, comment je peux dire, c'est ça décrit vraiment la réalité, puis ça le décrit d'une façon qui pourrait te déranger parce que là tu peux pas juste faire comme ça, tu sais, c'est vraiment juste, c'est même que ça marche, tu peux pas l'éviter. Si c'est ça la mort, c'est ça le péché, c'est ça la vie, c'est ça l'identité, toutes ces choses-là, ils sont réels, puis on décrit des vraies choses. Mais c'est ça donne que c'est la façon dont que on parle de ça. Ça s'applique autant à construire une galerie que de vivre la vie morale. C'est-à-dire que si tu suis pas le plan de ta galerie, puis tu n'utilises pas les bons matériaux, ben c'est la mort. C'est juste ça, c'est vraiment la mort de ta galerie. Possiblement la mort des gens qui vont l'utiliser. Puis la souffrance, ça va être la souffrance aussi.
Et donc, je pense que ce qui est bien avec ça, c'est que donc le péché, donc parce que comme tu disais, Jean-Philippe, il pourrait sembler qu'il y a un biais conservateur dans le fait qu'on dit que le temps c'est mal. Et donc quelque chose que moi j'ai trouvé qui était tellement tellement élégant dans ce que Mathieu disait, c'était le fait que ça, d'une certaine manière, ça va dépendre. Il faut savoir interagir avec la bonne externalité. Donc la femme qui est contre toi, donc qui est à l'extérieur de toi, comme tu disais, Jonathan. Mais pas ton ennemi non plus. Donc, si on va intégrer une femme qu'on ne peut pas faire rentrer dans notre identité, qui est vraiment trop loin, et souvent, les femmes qu'on ne peut pas faire rentrer dans notre identité, c'est les mêmes femmes qui vont attirer notre désir. Donc, on peut voir comment il y a la même pattern, malheureusement, à l'échelle personnelle, à l'échelle extérieure. Et donc, après, on ne pourra pas la couvrir à cette femme-là. Donc, tu invites un principe. Tu dois devenir esclave d'un autre principe afin de la couvrir. Et je pense que le péché, ça serait plus ça que le temps lui-même. Donc oui, ça c'est une des moi c'est comme ça que je le comprends actuellement.
Oui, parce que regarde la différence entre le péché puis une autre relation avec l'aspect féminin ou l'aspect transformateur qui serait différent. T'sais. C'est-à-dire que une aventure, disons, tu pars à l'aventure, c'est ça. C'est tout d'un coup la potentialité, puis le côté temps, là, ou le côté. Le côté variation, ben, il peut venir, ça devient la gloire aussi. Parce que ça devient des choses que tu rajoutes à ton identité, qui deviennent une manifestation de ton identité, mais qui ne sont pas de toi. C'est des choses qui sont jointes à toi, puis qui deviennent comme une extension de toi en même temps. Ben, ça, c'est la gloire. T'sais. Fait quand je. C'est pour ça qu'on dit la femme est la gloire de son mari, tu sais, dans les proverbes. Mais c'est ça, tu sais. Puis les enfants sont ta gloire parce que c'est comme une intégration de choses externes qui peuvent tenir ton identité, qui font juste comme agrandir ton identité comme ça. Puis c'est comme si tu es comme une extension de toi. Fait que ça, c'est un exemple de ça. Mais il y a aussi un autre exemple de ça, qui est, disons, extrême, mais qui est la réalité aussi. C'est-à-dire, tu peux aussi devenir, tu peux aussi souffrir vers la gloire. C'est ça, un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui souffre par refus de se soumettre à une principauté externe. La chose externe, finalement, l'avale, mais il y a une surprise de résurrection dans ce processus-là. T'sais. Fait que c'est pas comme si c'est juste centre bon, externe méchant, toutes ces affaires-là. Il y a vraiment une autre. Il faut juste être capable de le voir dans toute sa subtilité. Puis comme on sait, le même problème, disons, il y a un péché de droite, là, j'en parle souvent. Où il y a aussi le danger de saisir l'identité. Quand tu la sais, aussi que tu saisis l'identité, ben là, ça devient comme un péché de droite. Puis là, c'est normal que l'extérieur va le dévorer, t'sais, pour le. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est ça, c'est beaucoup plus subtil quand tu vois vraiment c'est quoi les choses. Puis quand tu arrêtes de le voir au niveau moral, tu vois juste que. Comment je pourrais dire? C'est vraiment comme. Voici, c'est quasiment comme scientifique, là. Tu sais, c'est-à-dire, si tu fais ça, c'est ça qui va arriver. Puis, tu sais, souvent, d'ailleurs, c'est super intéressant, parce que quand Adam et Ève tombent dans le jardin, moi, j'ai l'impression que quand les gens disent, oh, Dieu a maudit Adam et Ève, moi, je pense que Dieu, il a juste dit à Adam et Ève, voici ce qui va arriver. C'est-à-dire, voici, ça, c'est la loi de l'univers. Tu sais, là, tu as fait ça. Là, maintenant, voici ce qui va arriver. Puis, tu sais, à la limite, il y a une façon, une façon dont on pourrait vouloir ce qui va arriver, puis le transformer en d'autres choses. T'sais, Jésus, comment le martyr veut, il est prêt, il embrasse la mort. Là. T'sais, il essaie pas de l'éviter.
Ouais. Je pense que c'est un cas
Ça devient une
extrême.
gloire pour lui. T'sais. Tandis que la personne qui pêche, puis qui se retrouve, je sais pas moi, qui se retrouve t'sais, à perdre sa femme, puis il tombe dans le chaos, il se retrouve dans la rue en train de prendre la drogue, ben lui aussi, il souffre, puis il meurt. Mais pas à sa gloire, à sa perte. Parce que tu sais, on va tous mourir de toute façon. Tu sais, dans les proverbes, ça dit les cheveux blancs d'un homme, c'est sa gloire. Et ça, c'est la mort, là. Ça, c'est la mort. Ça veut dire ta mort peut être ta gloire.
J'avais pas fait ce lien-là. Mais c'est comme. C'est bien là, c'est un cas extrême de. C'est une structure qu'on a toutes à des niveaux plus bas. Là. On le sait toutes, là, que c'est. Il y a plein de choses qu'on fait où on souffre pendant qu'on les fait. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que le travail ou faire des
Ben
tâches, là, peu
oui.
importe. Ou, t'sais, pendant que tu fais cette chose-là, tu sais que tu es en train de souffrir, puis c'est t'éloigner d'une identité confortable, mais c'est pour faire grossir ton identité sur d'autres choses. Puis là, une fois que tu as fini. Comme ce travail-là, cette souffrance-là, puis que tu as réussi comme à faire grandir ton identité, ben, cette chose-là, maintenant, ça fait partie de toi, puis c'est comme ta gloire, le fruit de ton travail, etc. Puis comme c'est juste comme une structure de la réalité, puis le cas extrême, c'est la résurrection ou le martyre.
Oui, puis il y a plein de moments où il faut que le monde, comment je veux dire, il faut que ton monde se défasse. Ça fait partie du processus aussi. Tu sais, comme le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est carrément la dissolution des mauvais mondes, la dissolution des faux mondes. Mais ça, tu as besoin du chaos pour ça. Tu sais, le chaos, il fait son travail d'une façon vraiment importante dans ce cas-là. Quand tu laisses ton orgueil. Par exemple, l'humiliation, c'est vraiment un outil des fois intéressant pour aider les gens qui s'attachent à des identités à les laisser aller. Puis ça, c'est vraiment l'humiliation, c'est vraiment un outil de la mort, là, tu sais.
Donc, je pense que ce que vous dites là, c'est vraiment parce que une des choses sur laquelle Mathieu a insisté récemment dans la source académique qui est son Twitter, c'était vraiment le fait que, par exemple, ou même dans son livre, que Adam et Ève, une partie de leur péché, c'est le fait qu'ils ont essayé d'avaler un fruit qui était trop loin pour eux trop tôt. Donc, ça a vraiment rapport avec cette femme étrangère trop loin avec laquelle ils ont interagi trop tôt. Et qui les a donc empoisonnés parce qu'ils n'ont pas pu la couvrir, donc qui les a amenés en exil et a vraiment détruit leur monde. Donc on peut voir dans cette pattern-là un peu la personne qui, comme tu disais, finit par tomber dans la drogue et tomber dans la mort d'une manière plutôt reckless, pas par un courage, mais plutôt parce qu'il s'est fait piéger. Et je pense ici il y a une indication sur comment. En fait, on dirait que si on accepte la branche du mal comme étant mal, donc comme tu disais, Jean-Philippe, si on va travailler, c'est de la souffrance, on n'aime pas le faire, ou un martyr même, c'est on accepte le mal comme étant mal et comme étant de la souffrance, et de cette manière-là, il se transforme. Alors que dans le cas d'Adam et Ève, ils partent également dans la mort et ils finissent en exil, mais c'est plutôt parce que ils ont été piégés là-bas par un désir et non pas. D'une certaine manière, ils ont cru inconsciemment qu'ils pouvaient avoir tout bien sans vraiment que ça soit mal, mais finir par être piégés de cette manière. Maintenant, c'est intéressant que tu dises, Jonathan, que le martyr, parfois, il veut même la mort. Il y a même un désir qui vient avec. Ça serait peut-être plus mystérieux. Mais je pense que cette distinction entre tomber dans la mort parce que tu es piégé, aller trop loin, trop vite et tu étais gourmand, et courageusement accepter le mal, ce qui va le transformer, c'est un peu comment je vois que la branche du mal. Le mal est inévitable, mais si tu l'acceptes tel quel, il peut être transcendé. C'est un peu comme ça que je pense dans mon article, j'ai fini par la voir.
Ça me rappelle ce que Jonathan t'avait dit sur l'histoire de Jonas, là, où si tu réussis à être connecté à un espace plus grand, on peut dire que là, tu vas transformer ta mort en gloire, là, comme
En gloire, oui.
Jonas, quand il est dans le ventre de la baleine, dans le texte, ça dit qu'il se rappelle de Dieu. Fait que là, on vient en train de faire le lien entre le cercle, l'espace plus haut, l'espace ultime qui est comme établi par Dieu, puis Jonas qui est au fond dans la mort. Puis grâce à ce lien-là, ben, toute la structure devient bonne au final. Mais s'il n'y avait pas eu ce lien-là avec Dieu, ben, il serait juste mort, là. Ça aurait juste comme terminé là.
Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est peut-être de ça que Mathieu, quand il parle de l'idée de meta space, là. Tu sais, ça semble être ça, c'est-à-dire la capacité. Mais je sais pas, c'est ça. Tu sais, moi, je ne comprends pas totalement l'affaire de meta space. Tu sais, j'y pense. Tu sais, je comprends un peu. Je comprends ce qu'il veut dire, puis je pense j'ai l'impression que selon moi, dans ma façon de comprendre, ça a rapport avec cette transformation-là, tu sais, où le chaos, dans le fond, devient la chose la plus élevée dans le bon contexte. Mais dans sa structure, je ne le comprends pas toujours parfaitement, là, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai lu son livre en plus, tu sais, il faudrait que je le relis. Ça fait que, genre, tu sais, quand la dernière fois que j'ai lu, c'était avant qu'il le publie. Ouais,
2017 ou 2018 dans ce coin-là.
c'est ça, fait que ça fait un bout.
Cool, mais je pense qu'on a couvert pas mal de matériel quand même. Je sais pas si, Georges, il y avait un autre sujet dont tu voulais parler de tes articles.
Je sais pas pourquoi maintenant ce qui était dans ma tête, ce qui m'était venu en tête, c'était cette idée-là. Elle me semble qu'il est important cette idée, peut-être parce que en métaphysique aujourd'hui elle a beaucoup d'implications, hein, qui est le fait que le temps c'est vraiment la nature des choses. Donc le deuxième jour de la création s'est rempli avec les eaux, où si on travaille pas beaucoup et si on laisse les choses telles qu'elles sont, elles vont tomber dans cette désintégration et elles vont tomber dans ce chaos. Et l'espace, ça a besoin d'un certain travail. Et pourquoi je suis en train de dire ça? C'est parce que, et vous avez taclé ça dans un autre podcast sur, par exemple, les problèmes de process philosophy, ou par exemple, comment Bernard de Castrop verrait sa métaphysique. Je sens parfois que le naturalisme, si on accepte que le temps, c'est vraiment la chose naturelle des choses, ils ont tendance à vraiment rester avec cette réalité naturelle des choses, où les choses vont être d'une certaine manière seulement en confusion et seulement dans un certain dynamisme, alors que dans le christianisme, la vision finale, c'est le baptême par le feu, non pas par l'eau uniquement. Donc cette idée n'est pas exactement claire dans ma tête, mais je vois d'une certaine manière comment il y a ce refus du fait que les choses, dans leur état naturel, dans leur état final, excusez-moi, ou le jour, dans leur vision eschatologique, il y a un certain travail qui va être amené. C'est pas juste l'état naturel des choses, comme on pourrait l'aimer. Et ça, c'est un sujet que je n'ai pas complètement pensé, mais je pense que ça pourrait être approprié à plusieurs discussions.
Oui, faudrait que j'y pense. Je connais pas, je pense que peut-être je connais pas assez bien le travail de Castro pour voir le lien entre les choses que tu as dit. Mais c'est sûr que, ouais, c'est sûr que la. Ah, ça, je suis pas sûr. C'est vague pour moi.
Ouais, et même par exemple, juste ces dernières choses, même pour Jung, parce que Castrop est vraiment très influencé par Jung. Si tu as lu Ion, à mon avis, là où j'en suis arrivé, je sens vraiment que lui, il commence à voir comme quoi le Christ, c'est pas vraiment l'incarnation de Dieu, parce qu'il n'est pas en train d'incarner son mauvais côté. Et je sens que parfois, c'est vraiment penser que cette union d'opposés qu'on confuse, qui est dans la nature, pour lui, c'est censé être ça, Dieu. Et il n'y a pas ce. Il n'y a pas une discrimination des choses qui va écarter. Je ne suis pas vraiment clair sur cette idée, mais Jung a il a tendance à penser que Dieu, c'est juste l'inconscient, et que Dieu, c'est juste l'inconscient, et que la conscience et la self-conscience, c'est l'humain qui s'y ajoute. Donc, c'était ça ce que j'essayais d'ajouter, mais c'est ma faute. Je ne suis pas vraiment clair, j'avoue.
Mais je comprends peut-être un peu ce que tu veux dire. C'est vrai qu'avec les philosophies du processus, les choses qui, on dirait, où les gens arrivent juste après le naturalisme, ce ne sera pas encore une vision où il y a vraiment disons, un espace final, ça va peut-être juste parce que c'est une métaphysique qui est plus émergentiste à la base. Les gens, souvent, les gens qui se ramassent là, ils ont commencé avec quelque chose de plus matérialiste comme position. Puis ensuite, ils doivent rajouter des choses pour que ça devienne plus riche. Mais tu sais, veux pas, ils ont comme commencé un peu dans la confusion, veut pas, leur métaphysique. Puis après ça, c'est dur de concevoir ou d'admettre qu'il y a vraiment des formes immuables, des principes immuables, comme un but final à toutes les choses. C'est dur d'accepter la cause finale, souvent dans ce genre de métaphysique-là. Peut-être qu'ils vont l'accepter localement, mettons, des systèmes biologiques qui ont des fins, mais l'idée que toute chose a vraiment un but, puis que l'univers complet a un but, c'est des choses qui ont vraiment de la misère à accepter d'habitude. Mais je pense que c'est comme une conséquence d'avoir commencé avec une métaphysique qui était plus seulement émergentiste à la base, au lieu d'être émanationniste comme on avait dans
Ouais,
les métaphysiques plus anciennes, où là c'était tout à fait normal d'imaginer une consommation finale où il y avait un but qui était atteint pour toute chose, puis où il y avait des structures qui régissaient vraiment l'ensemble du monde, puis le monde tenait ensemble. Ça reste quelque chose de plus souvent flou puis chaotique, plus dans les eaux, comme tu dis, si tu commences plus vers le bas. Mais je ne sais pas si les gens comme, vont rester là pour toujours, justement. J'ai l'impression que c'est normal d'être à une étape un peu philosophique du processus après le matérialisme. Mais comme on avait déjà parlé ailleurs, je suis pas sûr que les gens peuvent vraiment rester là si longtemps que ça. On pourra en reparler. Des gros sujets, mais moi, je suis content de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Je suis content, Georges, que tu continues de publier des articles. C'est
Oui, c'est
toujours le
génial.
bienvenu. Envoie-nous ça.
Vas-y.
D'ailleurs, je vais être à Montréal la semaine prochaine. Je vais donner une conférence sur les zombies dans une résidence étudiante. Je t'enverrai ça, puis on pourrait peut-être se voir. Puis je vais partager l'invitation dans la vidéo aussi si les gens veulent venir voir ça. Faut s'inscrire, fait que je mettrai le lien. Mais venez dire bonjour, je serais bien content. Puis
T'inquiète, je peux annoncer moi aussi le 21 avril, je vais donner une conférence à Saint-Benoît-de-Nursie à Montréal après
OK.
la liturgie. Fait que d'habitude, ça va être autour de 1 h de l'après-midi. Là, après, on a la liturgie, on a un petit repas, puis après ça, c'est vers 1 h de l'après-midi. Ceux que ça les intéresse, c'est gratuit, vous pouvez venir. J'aimerais bien vous voir là aussi.
Parfait. Bon ben, merci tout le monde. Avec un peu de chance, on va se croiser en personne dans les prochaines semaines. Puis
Ouais,
sinon,
je
on se
reviens.
revoit dans le prochain épisode, dans quelques semaines aussi. Merci Georges, merci Jonathan, merci tout le monde.
Salut.
Merci à vous. Take care.